Bonjour, bienvenue dans La Reprise.
La Reprise, c'est le podcast qui s'intéresse à cette période nébuleuse qui précède et qui suit la fin du congé maternité et paternité et la reprise, ou pas, du travail. Lorsqu'on se met à redéfinir ses priorités au moment de sortir de la bulle créée autour de son bébé. Dans ce podcast, des mères et des pères vous raconteront sans phare comment ils et elles ont vécu leur parentalité comme leur évolution personnelle à ce moment-là. Et des experts viendront vous apporter leurs analyses et leurs outils pour cette période si particulière, mais dont on parle finalement rarement. Je suis Tinuane, la créatrice de ce podcast, et je suis moi-même dans cette phase de transition après l'arrivée de mon deuxième garçon. Je veux aider les parents à mieux se préparer à cette nouvelle vie, et je veux aussi contribuer à faire bouger les mentalités sur le sujet, à déconstruire l'injonction à la performance qui passe trop souvent sur cette période. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcasts. Avant de commencer cet épisode, sachez qu'il parle de harcèlement, de burn-out, de dépression et de violence obstétricale. Si vous pensez pouvoir être touché par ce type de sujet, prenez soin d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Marie, du compte Instagram L'Entre des Louves, je l'ai contactée à la suite d'un commentaire qu'elle avait laissé sous un post parlant de conciliation vie pro-vie perso. Elle y écrivait « Pour moi, la conciliation était compliquée, jusqu'en perdre ma santé mentale. J'ai essayé de tout avoir, la parentalité qui me convenait, et le métier passion, prenant. J'ai joué, j'ai perdu. Burnout pro, dépression postpartum. » Le témoignage qu'elle nous livre dans cet épisode est tout aussi poignant. C'est la première fois qu'elle se confiait sur cette période sombre de sa maternité et de sa carrière, et dont elle venait à peine de sortir. C'est donc avec beaucoup de sensibilité qu'elle nous parle du climat de travail oppressant dans lequel elle évoluait, alimenté par une manager qui l'avait prise en grippe. Elle nous décrit le mal-être que cela a engendré et ses répercussions sociales, même s'il a pu compter sur le soutien sans faille de son conjoint. Elle nous raconte aussi comment elle s'est accrochée à son allaitement comme à une bouée de sauvetage durant toute cette période. Le témoignage de Marie, c'est aussi celui d'un bouleversement identitaire, provoqué par la naissance de son fils, exacerbé par la reprise et achevé par cet harcèlement traumatisant. Un bouleversement qui a donné lieu à une nouvelle vocation et qui montre à quel point la maternité peut être source de changement, alors même que Marie a toujours considéré son métier d'infirmière comme le plus beau métier au monde. Je vous laisse découvrir ce témoignage incroyable de transparence, de sincérité et de lucidité. Bonne écoute! Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. On se voit en visio parce que toi, tu habites loin de chez moi. Avant qu'on commence de parler du sujet maternité et travail en tant que tel, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter ta famille et présenter ton métier ?
Ça marche. Du coup, moi, c'est Marie. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je vis du coup dans le sud avec mon conjoint et mon fils. Et je suis infirmière, du coup, de formation. Là, je travaille pas en ce moment, mais j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie avec les personnes âgées.
D'accord, très bien.
Et là, je suis en train de me reconvertir. Je commence même à lancer mon activité en tant que doula, donc en tant qu'accompagnatrice en périnatalité à la naissance.
Ah, super. Et tu peux nous expliquer ce qu'est le métier de doula ?
Vaste question. En gros, c'est être une accompagnatrice des personnes, des couples, des familles. Du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Donc c'est un accompagnement qui est tout à fait non médical. C'est plutôt un soutien émotionnel, informatif, vraiment un soutien quoi. Ça peut aussi englober par exemple les IVG, le deuil périnatal. Enfin c'est vraiment large.
Justement, parlons de désir d'enfant. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment est arrivé ton fils dans ta vie, enfin dans votre vie ?
Bah moi j'ai toujours eu un désir d'enfant. Enfin voilà, toujours eu très hâte d'être maman en fait. Et ouais, ça a été quelque chose même de très présent toute ma vie. Alors après, voilà, on se questionne beaucoup en ce moment sur le désir d'enfant et ce qui est sociétal et ce qui ne l'est pas. Et c'est d'ailleurs des choses qui me questionnent beaucoup. Bon, en gros, j'ai attendu que mon conjoint soit prêt aussi. Et puis voilà quoi. Un jour, on a décidé de se lancer. Et quelques temps après, j'étais enceinte.
Tu fais très heureuse.
Ouais. Ouais, ça va mieux là, on va dire.
Ça va mieux, c'est parce que la grossesse ou le postpartum ont été compliqués ?
Non, la grossesse, super. Le postpartum immédiat, très bien. Mais là, j'ai traversé une période qui a duré un peu plus d'un an et dont je sors à peine, qui a été très, très compliqué, ouais.
D'accord. Parce que lié au fait de devenir mère ou également lié au travail, parce que tu as repris entre-temps ?
Ouais, j'ai repris entre-temps, j'ai repris aux 3 mois de mon fils.
D'accord.
À la fin de mon congé maternité. Et oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ont contribué à cette dépression que je ne sais pas si on pourrait qualifier de postpartum parce qu'elle est vraiment tardive.
D'accord.
Par rapport à la naissance de mon fils. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que le travail fait grandement, grandement partie des raisons, des choses qui m'ont poussée là-dedans, quoi.
D'accord. Tu as repris le travail au bout de 3 mois, c'est ça ? Donc, c'est la durée légale, un minimum,
c'est
quoi.
C'est ça.
Tu avais envisagé à un moment donné de prolonger ou c'était pas du tout ni dans l'ordre des choses, ni non plus dans un contexte financier pas forcément évident non plus ?
Bah, en fait, le truc, c'est surtout que moi, quand j'étais enceinte, et avant d'être enceinte, mon travail, c'était vraiment quelque chose de très important. J'étais une passionnée, j'y passais beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps le matin où j'ai pas pu aller travailler à 7 mois de grossesse et que j'ai dû prendre mon congé maternité.
Ah ouais?
Ouais, de pas aller travailler, de plus voir mes patientes. Ça a été compliqué. Et en fait, j'étais persuadée que j'aurais qu'une hâte, ce serait de reprendre le travail, quoi.
Ça, c'était avant l'accouchement.
Ah, ça, c'était avant l'accouchement, ouais.
Et du coup, après, ton fils est né et ça a plus du tout été ça?
Ouais, voilà. En fait, après, mon fils est né. Et déjà, à l'origine, j'avais même pas l'intention de prendre un temps partiel ou quoi. Et puis, un petit peu au dernier moment, je me suis dit, mais je vais au moins prendre un temps partiel. Mais c'est vrai que plus la date de la reprise approchait, plus ça me semblait vide de sens et difficile à surmonter.
Ah oui. Mais à un moment donné, tu t'es dit, j'arrête tout, carrément.
Pour moi, ça n'a pas été une option. À ce moment-là, moi, mon conjoint, c'était l'année de son diplôme. Mais en tout cas, voilà, financièrement, c'était pas possible que moi, je prenne un quelconque congé ou quoi que ce soit. Au début, je m'étais même dit, je vais prendre mon 80% les 6 premiers mois où je ne perds pas d'argent. Et puis après, je retournerai à 100%.
Mmh.
Donc, j'ai repris à 80%. Mais clairement, les premiers mois, ça a été hyper difficile, quoi. J'avais l'impression d'être complètement déconnectée de mon travail. D'être un extraterrestre, je me sentais pas du tout en phase. Dans ma tête, j'étais toujours auprès de mon fils, je pensais qu'à ça toute la journée. Ça me semblait pas naturel du tout de reprendre le travail alors que mon fils avait que 3 mois. Il était si petit, en fait.
Mmh.
Je me rappelle de mon premier jour de reprise où j'ai pleuré forcément toutes les larmes de mon corps en le déposant à la crèche. Et quand je suis arrivée dans mon service, du coup, mes collègues avaient organisé une journée sympathique pour nos patients, nos patientes. Et quand j'ai ouvert la porte, elles ont toutes éclaté de joie, elles m'ont pris dans leurs bras et moi, je fondue en larmes et j'aurais voulu être n'importe où, mais pas là, quoi. Vraiment, mes collègues ont été tellement adorables, mais moi, je me sentais vraiment super mal.
Mais t'avais pas le choix, en fait, financièrement, c'est ça.
J'avais pas le choix, puis c'est vrai que j'ai pas eu le temps de voir venir ce truc-là, en fait. Moi, je pensais vraiment que j'aurais qu'une hâte, ce serait de retourner au travail. J'étais pas prête du tout à ce que mon fils chamboule tout en naissant, en fait.
Mm.
Je sais que je disais toujours, mais si on n'a pas envie que ça change la vie, un enfant, ça change pas la vie, ça s'adapte, ce sera toujours pareil. Enfin, ouais, en fait, j'avais cette vision où je pourrais continuer à faire tout le temps les mêmes choses et où j'aurais pas d'envie supplémentaire liée à ma maternité. C'est peut-être un peu contradictoire pour une fille qui a toujours voulu être mère, mais je voyais les choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai été peut-être un peu surprise de prendre ça et j'ai pas eu le temps de voir les choses venir. Puis l'air de rien, de toute façon, mon travail... après, voilà, j'ai mis du temps à m'y remettre les premières semaines, les premiers mois. Mais après, j'aimais vraiment mon travail aussi.
Ouais.
Et ça faisait partie aussi de mon équilibre, clairement.
Ouais. Comment t'as fait au début ? T'y allais à reculons et t'attendais que ça passe, c'est ça ?
Bah, c'est ça. Après, j'avais la chance, en quelque sorte, bon, ça s'est un peu transformé en piège, mais j'avais la chance que mon fils aille dans la crèche de l'hôpital où je travaillais.
Ah oui, d'accord.
Je l'allaitais. Je pouvais aller l'allaiter, en fait, donc je le voyais déjà 1 à 2 fois par jour à la crèche qui était genre vraiment juste en face du pavillon où je travaillais. C'est la loi, on a le droit à 1 heure d'allaitement sur notre temps de travail quand c'est possible, bien sûr.
Mm-hmm.
Donc, je pense que ça a un peu aidé aussi à ce que les choses se fassent, mais clairement, non, ça restait compliqué. C'est vrai que ça me faisait vraiment bizarre d'aller travailler, d'être là, puis je m'occupais, dans le cadre de mon travail, des soins de nursing, je sais pas comment le dire autrement, on faisait beaucoup de toilettes, des soins comme ça, en fait, des soins qu'on fait aussi à nos enfants. Et c'est vrai que je me disais, mais je suis là en train de m'occuper de toutes ces personnes et puis je m'occupe pas de mon fils pendant ce temps-là. Enfin, je sais que c'était spécial comme ressenti.
Ah bah oui, j'imagine, oui. Oui, parce que toi, t'es dans les métiers du soin, donc ça te faisait bizarre, effectivement, de le faire pour d'autres, quoi, en fait, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Je sais que pendant un temps, c'était ça. Je me disais, mais je suis là à m'occuper de tout le monde. Et puis, c'est d'autres personnes qui s'occupent de mon enfant. Et puis, comment est-ce qu'ils s'en occupent? Et puis, enfin, voilà, c'était compliqué. C'est vrai que je pense que j'aurais eu besoin peut-être de rester un peu plus longtemps. Surtout que moi, mon postpartum immédiat, ça a été vraiment très, très doux. Ça a vraiment été, je m'attendais pas à ça non plus, mais ça a été aussi très fusionnel, on va dire. Alors que je m'attendais encore une fois pas du tout à ça. Je m'attendais pas à l'été. Moi, je m'attendais pas à plein de choses.
T'as pu en parler avec des collègues ?
Ça, sur la reprise du travail tôt, oui, c'est sûr que mes collègues me comprenaient beaucoup. Elles me disaient même, mais tu vois, on te l'avait dit que ta vie, elle changerait. Parce que c'est vrai que moi, j'avais toujours un discours en disant, mais non, mais moi, ce sera toujours pareil. Je ferai toujours beaucoup d'heures sup. Je reviendrai toujours sur mes week-ends. Et clairement, les choses ont changé.
Ouais. Le fait de prolonger parfois son congé maternité, c'était une pratique qui avait été déjà été faite dans ton service, dans ton milieu ou...
Pas franchement, non. Non, on prend facilement un 80%, d'accord, dont on bénéficie rarement en réalité, enfin je veux dire dans les faits.
Ouais.
Mais non, congé maternité, en tout cas là où je travaillais avec mes collègues, c'était pas forcément une norme du tout, non. Non, c'est pas forcément quelque chose qui se faisait, et c'est pas forcément quelque chose, quand je me rappelle, qui était forcément très bien vu d'ailleurs.
Ah oui, donc tu n'y penses même pas en fait, parce que tu ne t'autorises pas, ou c'est tellement inhabituel que...
Ça n'a pas été une option.
Et c'est intéressant que tu me dises que tes collègues t'aient dit, on t'avait prévenu, bah, finalement en fait on est un peu aussi dans notre bulle quand on est enceinte, et on choisit, on sélectionne ce qu'on a envie d'entendre finalement.
C'est exactement ça, c'est vrai qu'on est sûr de plein de choses, j'étais sûre de plein de choses d'être... Et finalement je me suis vraiment pris une claque avec la naissance de mon fils, quoi. Ça a changé ma vision de beaucoup de choses et du travail principalement, quoi.
En quoi ça a changé ?
Bah en fait, si tu veux, moi j'étais le genre de personne qui revenait absolument tout le temps sur mes repos quand il y avait besoin, qui acceptait d'enchaîner plein de jours d'affilée, qui faisait des heures sup et qui les notait même pas parce que j'estimais que c'était pour mes patients et mes patientes et que c'était comme ça et que ça faisait partie de mon travail. Je pense que j'avais un petit peu intégré aussi le côté sacrificiel qu'on attribue au métier du soin.
Ouais.
Je pense aussi, moi ça me semblait naturel, ça m'a jamais coûté, et mes collègues me disaient toujours, tu sais Marie, à un moment tu pourras plus continuer à donner, puis un jour tu seras maman et ce sera différent. Et je disais que oui, je conçois bien qu'en étant maman ce soit différent, mais bon, pour l'instant j'imaginais pas non plus que ça puisse être différent à ce point là quoi. Et c'est ce qui a rendu les choses aussi hyper difficiles, c'est que ma cadre s'était beaucoup habituée à ce que je sois cette infirmière là,
ah bah
était
oui,
très très disponible. Et c'est ce qui a beaucoup contribué à mon mal-être, c'est que ma cadre a vraiment eu beaucoup de mal à accepter ce changement, et qu'en fait elle l'a même pas accepté, vu que c'est plutôt moi qui ai dû m'adapter finalement et qui ai fait beaucoup plus d'heures que j'aurais dû, on va dire quoi.
Ah oui, et du coup ça t'a coûté, j'imagine, émotionnellement.
Ça a détruit pas mal de choses, même ma confiance en moi, parce que je me suis vue un petit peu me laisser faire en fait au fil des mois, parce que j'avais pas l'habitude de dire non. En fait, j'avais jamais eu besoin de dire non. J'avais aussi un rapport spécial avec ma cadre, mais quand j'ai eu besoin de dire non, j'en ai pas été capable en fait. Et ça aussi, ça me détruisait un peu de dire, mais pourquoi j'arrive pas en fait à me faire entendre quoi ? Pourquoi j'arrive pas à faire entendre mes besoins et à dire clairement non ? En fait, quand je disais non, il se jouait une espèce de petite guéguerre derrière où ma cadre me harcelait, où elle me menaçait de certaines choses, où elle me faisait aussi beaucoup culpabiliser. Elle me connaissait bien, donc c'est vrai que c'était assez facile de me faire culpabiliser en disant « Mais Marie, si vous venez pas, vous vous rendez compte, ça va être une remplaçante qui connaît pas les patients, vous le savez, la qualité de soins va être moindre, on a des cas difficiles en ce moment. »
Elle appuyait vraiment là où ça faisait mal, quoi.
Ouais, je me sentais vraiment mal de pas réussir à dire non. Et de finalement de laisser passer plein de moments avec mon fils et de m'épuiser aussi, parce que j'avais un 80%. Ce 80% pour moi, il me servait surtout à pas enchaîner trop de jours, à me retrouver à certains moments avec mon fils quoi. Et finalement mon 80%, il servait surtout à ma cadre à bouger mon planning absolument comme elle le voulait. Donc j'avais jamais les jours que je voulais, même les jours exceptionnels, l'anniversaire de mon fils. Je finissais toujours, au début c'était accordé, et puis à la fin je finissais par ne pas l'avoir parce qu'il était accordé à quelqu'un d'autre. Enfin après, c'est compliqué. Depuis ma grossesse, en fait, j'avais un rapport vraiment conflictuel avec ma cadre.
Ah oui, donc t'étais dans un métier prenant, avec des gros horaires, avec des astreintes quand même de week-end, et avec tout ça, un manager...
Qui m'avait pris en grippe.
Ouais, puis qui fait du chantage affectif, que tu parles de harcèlement. Effectivement, quand tu me racontes tout ça, donc un cadre de travail qui est tout sauf aidant.
Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte un peu de ça, mais oui, effectivement, ouais. Qui est tout sauf aidant, qui m'a même mis beaucoup de bâtons dans les roues jusqu'à ce que je parte, quoi.
Ah oui, ça a duré combien de temps, du coup, entre le moment où t'as subi tout ça et où t'as réussi à prendre du recul?
Bah, c'était compliqué pendant ma grossesse, parce que déjà, j'avais dû prendre un petit congé les 3 premiers mois parce que bah, j'étais épuisée, je vomissais beaucoup, j'avais perdu beaucoup de poids. J'avais dû me mettre en arrêt 1 semaine et déjà à ce moment-là, c'est là que ça a vraiment commencé. Après, ça a été voilà les petites phrases qu'on adore pendant la grossesse. La grossesse n'est pas une maladie. Si j'avais su, j'aurais engagé que des femmes ménopausées et des hommes. Enfin voilà, je m'en suis vraiment. Ça a été, mais c'est fou parce que je me suis remémoré tout ça, tu vois, en pensant à ce podcast. Mais je pense que j'avais mis vachement ça de côté. Mais c'est vrai que ouais, non, ça a été assez violent en fait. Et après, quand je suis revenue du congé maternité, ça a été mieux, surtout que, entre-temps, elle s'est un peu rendue compte quand même que j'avais tenu jusqu'à mes 7 mois de grossesse, ce qui est assez exceptionnel dans mon milieu, on s'arrête souvent plus tôt.
Ouais.
Et du coup, ça l'avait un petit peu calmée. Et puis quand je suis revenue, bon, bah voilà, j'étais en postpartum limite, enfin voilà, tout le monde était, et même elle était assez cool avec moi, en fait. Et surtout que, voilà, ça se voyait que c'était dur pour moi. Mais assez rapidement, ça s'est à nouveau dégradé. Et oui, je pense que ça a duré à peu près, là, à être vraiment compliqué avec ma cadre, ça a duré pas loin d'un an, quoi. Puis il y a eu le Covid là-dessus qui est venu compliquer énormément les choses en termes de charge de travail.
Oui, de protocoles à respecter et tout ça, j'imagine.
Ouais, on avait surtout beaucoup d'absents et il fallait remplacer. Et en fait, bah, moi j'étais à 80%, sauf que je travaillais 100%. Je travaillais même plus de 100%. J'étais toujours payée 80, en sachant que je faisais en plus 1 heure et demie de route pour aller bosser.
Ah ouais.
Enfin voilà, en fait, c'était vraiment compliqué d'être mère à côté de ça, en fait. Et puis du coup, c'est vrai qu'à la fin, avec cette histoire de Covid et cette histoire de je faisais beaucoup d'heures, et en fait, j'ai jamais pu choisir mes jours de repos. Et une fois que j'ai été maman, ça m'a gênée, mais c'était hyper dur. J'étais constamment dans une espèce de rage, en fait, vis-à-vis de ma cadre, mais j'arrivais pas à m'exprimer auprès d'elle parce qu'il y avait quelque chose qui m'angoissait beaucoup en elle. Mais vis-à-vis de mes collègues aussi, qui bénéficiaient, c'était pas de leur faute, mais qui bénéficiaient des droits qu'on m'enlevait à moi, en fait. J'ai l'impression que j'allais bosser les poings serrés et je restais comme ça tout le temps, toute la journée dans la rage, alors qu'avant j'étais le genre de fille qu'on entendait rire dans les couloirs.
Mais elle était mère, cette manager?
Elle était mère, mais elle était mère de grands enfants. C'était une dame qui était presque à la retraite. Mais justement, elle me parlait toujours un petit peu de son expérience, comme quand j'ai dû me mettre en arrêt enceinte. Elle me disait, mais moi, j'ai fait 4 grossesses et j'étais couturière et j'arrêtais pas. Ou alors à dire des choses du style, mais si vous n'y arrivez pas avec un, imaginez comment moi j'ai fait avec 4. L'invalider complètement les difficultés que je pouvais rencontrer. Puis il y avait aussi ce truc de dire, bah, mais Marie, vous êtes infirmière, vous l'avez choisie, vous étiez au courant des sacrifices qu'il fallait faire et tout. Et en fait, sur le coup, je le voyais pas, mais avec le recul, il faut vraiment sortir de ça. On a quand même un petit peu ce rôle sacrificiel en tant que mère. On doit se sacrifier un petit peu pour nos enfants. Il y avait aussi, en fait, cette injonction au niveau de mon travail. Il fallait que je sacrifie ma vie privée pour mon travail, comme je l'avais un peu toujours fait. Mais voilà, on me demandait vraiment d'oublier ma vie privée, quoi. Là, maintenant, je le vois, mais en fait, j'étais tellement dedans à ce moment-là qu'en fait, je pense que je culpabilisais moi-même d'avoir besoin de prendre du temps pour mon fils, en fait. Je culpabilisais d'être tout le temps en train de courir à la maison, d'être tout le temps stressée aussi, parce que forcément, au bout d'un moment, ça a fini par m'atteindre. Et je culpabilisais aussi, en fait, d'être à mon travail et puis de penser à mon fils. Et en plus, il y avait ce truc que je tirais mon lait et tout, donc j'étais dans la culpabilité de pas être à 100% à mon travail et de pas être à 100% avec mon fils, en fait, tout le temps. Et du coup, ça a duré un moment comme ça jusqu'à ce que je me noie totalement. C'est vrai quoi, à la période du Covid, c'était affreux vraiment. Cette période-là, j'en ai même des souvenirs un peu flous tellement je bossais énormément pour combler les manques d'effectifs. En plus, on était parti à la campagne, j'avais encore un peu plus de route à faire pendant le confinement. Après, j'avais cette chance, c'est que mon conjoint, lui, il était en chômage partiel là. Du coup, c'est lui qui s'occupait de notre fils, c'est lui qui gérait toute la maison. Et moi, j'étais un zombie, en fait. J'allais travailler, je rentrais, j'étais épuisée, j'arrivais pas à dormir parce que j'angoissais, parce que j'étais dans la rage, je ruminais toute la nuit ce qui s'était passé avec ma cadre, les choses qu'on m'octroyait pas. Ça a duré comme ça tout le long du confinement, en fait. Et puis ça a été une période où vraiment, enfin, j'évitais mon fils, en fait. J'avais pas de patience avec lui, je m'énervais hyper facilement, j'avais aucun plaisir à passer du temps avec lui. En fait, d'un coup, ça s'est transformé en grosse coupure avec mon fils. En fait, j'arrive pas à savoir comment c'est arrivé ou quoi, mais en fait, d'un coup, d'un seul, au moment où mon conjoint a été hyper disponible pour mon fils, c'est comme si moi j'avais dit, allez, je lâche au moins une des choses qui est trop dure pour moi, en fait. Et là, à ce moment-là, bah, ça n'a pas été mon travail et ça a été mon fils que j'ai vraiment mis de côté pendant cette période-là. Et puis, en fait, la prise de conscience est vraiment arrivée quand t'es venu l'été. Moi, j'avais pris mes vacances en septembre. Souvent, quand on a nos vacances en septembre, on a le droit d'avoir quelques petits jours comme ça en juillet et en août pour que ça paraisse moins long. Là, on sortait du Covid, période hyper compliquée, qu'à un moment, j'avais bossé 10 week-ends d'affilée. Enfin, c'était... Et puis, en fait, j'avais posé des semaines en juillet et en août qui ont été octroyées à d'autres personnes qui avaient un contrat à 100%. Moi, j'étais à 80% et je me retrouvais encore à être lésée par rapport aux autres. Et en fait, à ce moment-là, ça a été le truc de dire, en fait, là, je peux plus. Je voyais l'été arriver. En fait, c'est moi qui allais s'enchaîner, là, juillet, août, avec mes vacances en septembre. Et je me disais, mais en fait, j'y arriverais pas, c'est pas possible. Et puis, je voyais bien que j'étais en train de perdre mon fils, en fait. En gros, j'avais l'impression que je l'allaitais et c'est tout. Je faisais rien d'autre. Je m'étais complètement déchargée sur mon conjoint. En tout cas, c'était source de culpabilité de me voir complètement m'éloigner de mon fils. Ça se ressentait dans sa façon d'être avec moi et tout. Et ça, ça a été hyper dur, quoi.
Et du coup, à ce moment-là, t'as dit stop?
Je me suis mise en arrêt parce que vraiment je pouvais plus. De toute façon, quand j'ai été voir mon médecin, elle me connaît, j'ai déjà fait des dépressions.
D'accord.
Elle m'a dit, oui Marie, oui, je vais t'arrêter. Et puis ça a duré un moment parce que forcément je me suis arrêtée. Quand j'ai appelé ma cadre pour lui dire, au début je voulais juste me reposer un petit peu. Et puis en fait, face à sa réaction hyper violente, hyper culpabilisante, j'ai prolongé mes arrêts en fait.
Mmh.
Elle a eu des paroles vraiment horribles. J'ai deux collègues pendant la période là qui ont perdu leur bébé, qui ont des grossesses, qui se sont arrêtées. Et en fait, elle a même réussi à me parler de ça, à me culpabiliser de ça en disant « Mais est-ce que vous vous sentez légitime, Marie, à vous arrêter en sachant ce que vos collègues ont vécu? Vous respectez pas vos collègues ?»
Ah, oh, mais elle est horrible !
Oui, et du coup, vraiment à ce moment-là, que j'ai commencé à comprendre que j'arriverais pas à y retourner. Malheureusement, c'est hyper compliqué de changer de pavillon. Et puis de toute façon, quand j'en avais parlé à la médecine du travail, on m'avait dit... j'avais parlé de harcèlement déjà à ma cadre sup qui m'avait dit « Mais vous savez... Votre cadre, elle est maladroite, mais elle est pas méchante. À la médecine du travail, on dit, écoutez, à un moment, faut peut-être se forcer un petit peu. »
J'avais aucun soutien.
En fait, j'avais aucun soutien. Et même mes collègues qui ont été adorables et franchement, qui m'ont beaucoup soutenue. En fait, au bout d'un moment, les gens en ont marre de soutenir. Et puis même, faut dire ce qu'il y a, cette période du Covid, elle a été horrible pour tout le monde chez nous, en tout cas. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, chacun voit midi à sa porte. J'avais aucun soutien nulle part, à part mon conjoint. En plus, j'étais en plus en conflit avec mes parents et tout. Enfin, période vraiment affreuse. Et finalement, en fait, il allait être diplômé en septembre. Lui, il avait toujours voulu changer de région, tout ça. Moi, j'étais plus accrochée déjà à mon travail. Moi, je me voyais travailler toute ma vie là où j'étais. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à me dire, en fait, il faut qu'on s'éloigne. Et du coup, mon conjoint m'a dit, écoute, sinon, voilà, une fois que j'ai mon diplôme, je vais chercher du travail dans le sud. Puis voilà, puis on lâche tout et on fait autre chose, quoi. Peut-être un petit peu comme fuir, j'aime pas dire ça parce que c'est aussi un projet de vie. Enfin voilà, lui, il en avait envie depuis très longtemps. Moi, ce qui me retenait, pas forcément des bonnes raisons. Mais bon, en tout cas, à ce moment-là, c'est comme si j'avais lâché un peu toutes mes peurs de bouger, de partir. Et puis, on s'est dit, allez, on va faire les choses autrement. Puis moi, c'est vrai que le métier d'accompagnante à la naissance m'intéressait depuis de nombreux mois. J'ai dit, allez, je vais me lancer là-dedans aussi. Et puis, je crois que j'ai vraiment pris conscience en fait de l'importance du bien-être et aussi du fait que je sais pas si je trouverai un jour un poste d'infirmière qui me demande pas en fait de me sacrifier totalement, quoi. Ce que j'ai plus forcément envie de faire, en tout cas pas là tant que mon enfant est jeune, quoi.
Oui, c'était un peu redémarrer ta vie en fait.
Ouais, c'était ça. J'en avais besoin. J'étais au fond du gouffre et j'avais vraiment l'impression que ça allait me sauver, quoi, de partir. Ça allait nous sauver aussi, parce que forcément, notre couple, avec cette période hyper compliquée où on se voyait pas, où moi, clairement, je pétais des câbles parfois d'angoisse, de mal-être, dire, en fait, peut-être que je devrais partir, vous laisser tous les deux.
Oh, à ce point-là.
Ouais, j'ai vraiment traversé une période hyper compliquée, tu vois, avec le recul, je m'en rends compte, mais ouais, ça a été vraiment dur, et puis, en fait, j'en ai pas parlé. Déjà parce que c'est dur, quand on parle de ce qui va pas dans notre parentalité, je trouve qu'on se prend toujours, des conseils, qu'on n'a pas demandé, des injonctions. Par exemple, j'allaitais encore mon enfant et je sais que c'était systématiquement le truc des gens quand je disais que c'était difficile et qu'en plus les nuits elles étaient dures. Et puis, je sais qu'on me remettait toujours face à mes choix de parentalité, quoi. Toujours ce qui s'est passé en me disant, mais en même temps, t'as pas vu ce que tu donnes à ton fils avec ton allaitement, alors que moi je suis persuadée que c'est un truc qui a un peu sauvé aussi ma relation avec mon fils en quelque sorte.
C'est ce que j'allais dire, vous gardiez au moins ce lien-là.
C'est exactement ça. C'est vrai que moi, je sais que si j'avais dû arrêter, et puis il y a des moments où, avec mon travail, forcément, j'avais des mastites. Il y a des jours où j'arrivais pas à tirer du tout mon lait. Ouais. J'avais aussi des grosses becs de lactation à cause du stress, à cause de plein de choses comme ça.
La fatigue, oui, je vois bien.
Voilà, il y a d'autres manières de créer du lien avec son enfant. Mais moi, je sais qu'à ce moment-là, c'était la seule façon que j'avais de créer du lien avec lui. J'arrivais à le faire d'aucune autre manière, quoi. D'ailleurs, l'une de mes plus grosses craintes, c'était que cet allaitement s'arrête, quoi. J'avais vraiment l'impression que si ça s'arrêtait, je perdais mon fils, quoi.
Ça a été ton guide, finalement, cet allaitement?
Ouais, complètement. Bah, puis depuis le début, c'est vrai que ça peut guérir un accouchement un peu traumatique, des choses comme ça. Enfin, je sais que moi, ça a toujours été un petit peu, ouais, une source de guérison, pour moi aussi, quoi.
Justement, tu disais tout à l'heure que tu t'étais mise de côté par rapport à ton fils, mais moi j'ai l'impression que tu l'as surtout protégé.
Ouais, c'est possible aussi, ouais. C'est dur d'avoir le recul de voir ça.
Enfin, en tout cas, moi c'est ce que je perçois dans ce que tu me racontes. Si en plus t'avais déjà vécu des périodes de dépression, je pense que, bon, de toute façon, pour n'importe qui, fatigué, stressé, surtout par le boulot, par quelque chose d'extérieur, quand tu reviens de ton boulot, si tu as des choses qui se passent dans ta tête ou que tu rumines, bah forcément, ça altère ta relation avec les autres. Donc, je pense que inconsciemment, en fait, tu as fait les choix que tu savais être salvateur pour ton fils, c'est-à-dire le protéger la plupart du temps et puis garder ce lien-là avec l'allaitement. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le perçois.
Ouais, non, mais c'est sûr, t'as raison. Ouais. C'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que je dis j'ai la chance quand même que mon conjoint travaillait pas, parce qu'avant ça justement je commençais déjà un peu à perdre pied avant ça, et je sais que c'était hyper difficile. Du coup moi je travaillais soit du matin soit d'après-midi, souvent, très souvent d'après-midi, c'est là qu'on avait le plus besoin. Puis moi c'était plus facile pour moi que de lever mon fils à 5h le matin.
Ah, bien sûr, ouais.
Et je sais que le matin, ce temps à partir du moment où on était levé jusqu'au moment où il fallait partir au travail, pour moi c'était hyper compliqué, quoi, déjà au niveau organisationnel. Et puis je me sentais trop souvent perdre pied, en fait, à cause du stress, à quoi il a pas voulu téter, il va partir à la crèche sans avoir tété, et puis il a pas voulu dormir, et forcément qu'il voulait ni téter ni dormir, moi j'étais une boule de nerfs. Et c'est vrai qu'une fois que mon conjoint il s'est arrêté, j'ai vraiment, allez, c'est toi qui prends c'est toute la charge liée à notre enfant. Et effectivement, c'est sûr que c'était une manière de le protéger, parce que je suis persuadée que j'aurais pu vraiment altérer notre relation et peut-être même le blesser par ma difficulté, en fait, à gérer mes propres émotions et a explosé parfois. Et
peut-être que tu t'es permis de le faire aussi parce que tu avais complètement confiance en ton conjoint et tu savais que tu pouvais compter sur lui, ça joue.
Ça, c'est sûr.
Puis peut-être que tu savais aussi que c'était le seul moyen pour toi d'arriver à garder un minimum de...
Un minimum de santé mentale, on va dire. Si ma cadre avait été différente, il y aurait peut-être eu un équilibre possible. Si aussi mon 80% avait été respecté, parce que c'est vrai qu'on fait tout le temps croire aux infirmières que c'est normal de leur sucrer des heures et tout, mais en fait non, ça fait pas partie de notre diplôme te faire avoir... Mais c'est hyper ancré dans notre métier, en fait, ce truc. Mais j'ai des collègues quand même qui arrivent à faire juste les heures parce qu'elles se positionnent, en fait. Ce que moi, j'ai pas réussi à faire. Je pense qu'il fallait que je lâche un des pans, même si finalement, une fois que j'ai lâché du lest sur mon fils au travail, c'était toujours aussi dur parce que, voilà, comme je te disais, cette rage accumulée, cette injustice, ça bouffe. Plus moi j'ai toujours été un peu force de proposition dans mon travail, toujours voilà le bout en train n'aide pas. J'étais dans un pavillon hyper difficile et c'est vrai que parfois j'avais des collègues qui baissaient les bras et moi j'étais toujours en train de dire mais non, faut y aller pour eux, pour les patients, pour le travail, on va faire quelque chose de bien. Et à ce moment-là, enfin, il n'y avait plus personne, je faisais mon travail de façon mécanique alors que c'était pas du tout mon genre et je rasais les murs pour pas croiser mes collègues, quoi. Clairement, j'étais l'ombre de l'infirmière que j'étais auparavant.
Ah oui. Et du coup, de fait, tu t'es isolée, mais c'est ce qui a dû encore plus amplifier aussi...
Ouais, bah clairement.
Le sentiment d'isolement, tu peux de toute façon ressentir dans ces cas-là, indépendamment de ce que tu peux faire, quoi.
Bah c'est vraiment ça. Ouais, non, je me sentais vraiment seule au travail, ce qui n'avait jamais été le cas avant, quoi. Au contraire, on fait un métier difficile, la plupart du temps, ça nous soude, et justement, c'est ça qui fait qu'on arrive à supporter pas mal de choses. Souvent, c'est qu'on est ensemble, c'est un travail d'équipe, quoi. Et c'est vrai qu'une fois que j'avais perdu cette partie équipe, mon travail, il était vraiment beaucoup moins sympa.
Et ta cadre, avant que tu annonces ta grossesse, elle était déjà un petit peu comme ça ? Enfin, pas forcément vis-à-vis de toi, mais tu avais déjà pu observer un comportement de... Je sais pas comment appeler ça, toxique ?
Bah en fait, avec d'autres personnes, je savais qu'il y avait eu des antécédents de harcèlement.
Ah oui.
Donc j'avais un peu ça en tête. Et oui, avant ma grossesse, j'avais déjà un rapport problématique avec elle, justement parce que j'étais très disponible. Mais dès que je voulais dire non pour quelque chose, elle avait tellement l'habitude que ce soit facile avec moi. Il y avait un trou dans le planning, c'était Marie, que dès que la première fois que je lui ai dit non, c'est là que ça a commencé un peu à être compliqué. Et puis, moi, j'ai toujours été du côté de mes patients, de mes patientes dans mon travail et pas du côté de ma hiérarchie. Et dans un milieu où on manque de moyens humains, de moyens, de matériel et tout, moi, je sais que j'ai toujours été celle qui réclamait pour mes patients, qui m'insurgeait. Donc, tu vois, j'étais pas une chieuse, en fait, mais simplement, j'étais ce genre de fille à ramener un thermomètre pour prouver à ma direction qu'il fait trop froid, qu'on n'est même pas dans la loi et qu'il faut vraiment se bouger pour faire les choses et mettre du budget, quoi. Et c'est ça qui était compliqué. En fait, j'étais dans un pavillon dans lequel, enfin voilà, qui n'intéresse pas vraiment grand monde, les grands psychiatres de l'hôpital et tout, et ça plaisait pas à ma direction qui voulait juste qu'on travaille bêtement, sans se poser de questions sur les conditions de vie des patients. Moi, c'était pas possible.
J'ai un truc que j'arrive pas à comprendre. T'as fait une alerte au RH, il y avait déjà eu des cas de harcèlement. toujours rien, Satuco ?
C'était un gros hôpital et ça fonctionne un peu comme, comme un milieu politique en gros, quoi. Je sais pas comment dire, c'est très spécial. Moi, j'avais pas été jusqu'à la RH, en fait. C'est ça le truc, c'est que j'avais été, en gros, à ma cadre sup.
Ah, ok. Je connais pas du tout le milieu de l'hôpital, d'accord.
En fait, j'avais été juste au-dessus, mais justement, j'ai jamais engagé trop de trucs. Enfin, voilà, il y avait les syndicats aussi. J'étais amie avec un mec du syndicat qui me disait toujours, mais tu sais, on peut lancer des choses aussi, mais ça m'impressionnait vachement d'être aussi frontal. Puis franchement, c'est ridicule, hein, mais je pense que j'avais peur de ma cadre.
Ouais.
C'est sûr, de toute façon, j'avais vraiment peur de ma cadre, à force, même si j'avais vraiment pas de respect pour elle, pour son travail, très honnêtement. Mais j'avais comme une peur, enfin voilà, je fuyais très fort la confrontation. À la fin, d'ailleurs, je revenais sur mes repos parce que j'avais pas envie d'aller la voir en lui disant « bah non, je peux pas, quoi ». Mais non, oui, j'étais passée, en fait, juste au-dessus d'elle et j'avais surtout été voir, justement, ma cadre cible en lui disant « mais je veux surtout, en fait, là, c'est que votre petit dossier, là-dedans, vous allez marquer harcèlement ». Je dis « parce que ce que je vous dis, là, c'est du harcèlement, à un moment donné,
bah
il faut arrêter de jouer sur les mots, c'est du harcèlement, je veux juste que vous l'écriviez sur votre dossier parce que je veux que le jour où il se passe quelque chose, en fait, avec ma cadre, je veux que vous sachiez que… »
J'ai déjà prévenu, quoi, ouais.
C'est pas comme ça, voilà, j'ai déjà prévenu, je vous ai dit que ça se passait mal, je lui ai même rappelé, je lui ai dit « écoutez, je connais les casseroles de ma cadre, je sais ce qui s'est passé dans le passé, donc là, maintenant, je veux pas qu'il se passe quoi que ce soit ». Mais c'est vrai que j'avais du mal aussi, même à ce niveau-là, à aller chercher de l'aide. Mais ça, c'est aussi comme ça que je suis, en fait. C'est vrai que moi, je suis pas du genre à aller chercher de l'aide. Si j'y arrive pas toute seule, bah, j'y arrive pas, quoi. Je suis un peu comme ça. Et oui, et mes collègues qui m'aidaient, en fait, le problème, c'est que s'ils prenaient ma défense, mais à un moment donné, bah, ils finissaient par se faire saquer aussi sur leur planning et tout. Puis je pense qu'au bout d'un moment, c'est moi aussi qui aurais dû peut-être me positionner, mais j'ai jamais réussi.
Ouais.
Après, j'étais pas dans la meilleure des positions non plus, quoi.
Ouais, mais c'est difficile. Mais du coup, en t'entendant, je me dis que toi, tu étais dans un contexte professionnel qui est toujours beaucoup plus facile à dire d'un point de vue extérieur et en plus a posteriori. En fait, tout était là presque pour t'amener droit dans le mur. Entre un contexte de travail difficile en soi, pas de moyens. Donc toi, tu as choisi un métier par passion, par vocation. Oui, je comprends la notion de sacrificiel que tu as totalement intégré parce que tu te dis, bah, sinon... ils sont tout seuls.
C'est exactement ça, ouais.
Plus une cadre complètement toxique. Je veux dire, t'avais un cocktail magique.
Mais c'est ça. Bah ouais. Ouais. J'arrivais à supporter ça avant d'être mère, mais après.
Oui, c'est ça. Et encore, je sais pas comment t'es arrivé à supporter tout ça. Mais du coup, je pense que t'as dû à. Enfin, forcément, en plus, le bouleversement de la maternité, la chute d'hormones. Tout, les émotions que tu vis en centuple, si ce n'est force mille, le scénario était presque écrit à l'avance, entre guillemets. Après, facile à dire, après coup.
Bah moi, je ne l'ai pas vu venir. Puis j'avais pas non plus envie de le voir venir. En fait, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de dire bah, je suis en train de faire encore une dépression. Parce que voilà, moi je pensais qu'en devenant mère, on ne faisait plus de dépression, moi. Moi, j'ai attendu ça toute ma vie et je pensais, ouais, non, c'est vrai que je pensais qu'avec un enfant, je serais capable de tout surmonter pour lui. C'est un truc tout bête, j'étais fumeuse et je pensais que quand je serais enceinte, bah, grâce à l'instinct maternel, j'arrêterais de fumer tout de suite, que ce serait facile et tout. Bah, ça n'a pas été le cas du tout. Mais je sais pas, j'avais cette impression que j'arriverais à tout surmonter, je sais pas, ça me semble tellement, tellement naïf maintenant, mais je sais pas.
Ça donnerait des super pouvoirs ?
Ouais, voilà, des super pouvoirs de super maman qui peut tout faire. Et en fait, non, et c'est pour ça que j'ai pas vu venir, je pense, cette dépression et que je m'en suis rendu compte tard. Puis après, je me suis dit, bon, bah, dès que j'aurai arrêté mon travail, ça ira mieux, mais en fait, non, quand j'ai eu arrêté mon travail, la dépression était là et j'ai mis encore des mois à m'en sortir.
Et du coup, t'as eu un accompagnement psy, j'imagine, à ce moment-là?
Malheureusement, non. J'ai vraiment été dans le déni total au point de ne pas me faire aider du tout.
Ah oui?
Ouais, c'est ça, en fait, le problème, et d'ailleurs là, je suis en train de faire des démarches pour me faire aider, donc je vais mieux, mais n'empêche que je pense que il faut absolument que je me fasse aider par quelqu'un, c'est sûr.
Parce que tu parles de déni, parce que pour toi, c'était par rapport à tes épisodes de dépression précédentes où tu t'es dit, c'est derrière moi, point, et...
Ouais, je sais pas où j'avais, peut-être que j'avais juste pas envie de m'en occuper. En fait, j'étais tellement dans le jus avec mon fils. Après, mon chéri a repris le travail, je me suis retrouvée à avoir la charge de mon fils et ça a été hyper dur, même si j'avais arrêté le travail. Ça a été dur parce qu'il y avait une espèce de coupure avec lui.
T'es passé d'un extrême à un autre, en fait, en termes de contexte.
C'est tout à fait ça. J'étais d'un coup tout le temps avec lui sans relais et j'étais assez persuadée qu'en ayant arrêté mon travail, j'allais aller beaucoup mieux. Et j'avais comme pas le temps de m'occuper de moi. En fait, je voulais récupérer cette relation avec mon fils. Je voulais lancer mon activité d'accompagnant. J'étais un peu en mode, genre, j'ai pas le temps de m'occuper de ma dépression. C'était plutôt ça, en fait. Puis ça va le faire, et puis ça va aller. Fin...
Ah oui, tu t'es dit que le fait de te mettre en action allait pouvoir t'aider à passer ça?
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Je m'accrochais à la moindre... Un matin, j'allais me lever sans avoir la rage, ou j'allais mieux dormir, et je me disais, voilà, c'est bon, c'est fini, ça va mieux. Puis en fait, après, bim, je repartais dans le mal-être. Je me rappelle quand on me demandait comment ça va, je disais, là, tu vois... ça va mieux, ou alors, en ce moment, c'est un peu compliqué. Et puis après, du recul, je me disais, mais en fait, ça a été compliqué pendant plus d'un an, quoi. Faut dire la vérité, mais c'est comme si je sais pas, je me disais quand, si je faisais semblant de pas voir que ça allait pas, bon, ça allait passer tout seul. Pour une infirmière en psychiatrie, c'est...
Ouais, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.
Ça, c'est sûr.
Et ce métier de doula, c'est quelque chose auquel tu pensais avant ta grossesse?
Pas du tout. Je ne connaissais même pas, en fait.
D'accord. C'est vraiment la grossesse et la maternité qui t'a ouvert cette voie-là.
C'est en essayant de comprendre un peu ce qui s'était passé pendant mon accouchement, en fait. Puis moi, je suis du genre, quand je m'intéresse à un sujet, je vais creuser bien profond. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre sur Instagram, en rencontrant des mamans, en cherchant aussi du soutien pour mon allaitement, qui a été compliqué en plus de tout ça. Fil en aiguille, j'ai fini par trouver ce métier que je trouvais passionnant. Et moi qui me suis jamais vue faire autre chose qu'infirmière, moi qui ai toujours dit, mais moi si je suis pas infirmière, je serais rien. J'ai réussi à trouver un métier qui est aussi dans l'accompagnement, dans l'humain et qui est surtout sans hiérarchie. J'avoue que ça, je pense que c'est un espèce de traumatisme et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut que je me fasse aider. Là, j'ai essayé de faire de l'intérim, mais rien que de penser à retourner dans ces structures avec cette hiérarchie, c'est vraiment hyper hiérarchisé comme métier, comme milieu. À chaque fois, j'angoisse, quoi, et c'est là que je me dis que,
Je comprends.
J'ai vraiment besoin de me faire accompagner. Je suis en train de faire des démarches là, du coup. Trouver quelqu'un, déjà, c'est pas facile.
Oui, puis en plus, t'as déménagé entre temps, donc.
Ouais, c'est ça.
T'as tout contexte, ton repère environnemental à recréer. Et tu parles de ton accouchement, c'est parce que t'as eu un accouchement compliqué?
J'ai subi. Déjà, j'ai eu un accouchement super rapide. Je suis arrivée à 21h à la maternité, à 23h30, mon fils était là.
Ah oui.
Et du coup, je me suis retrouvée face à une équipe qui a été dépassée par cette naissance rapide. Et il y a eu, il y a eu des violences. On m'a imposé une position qui m'était douloureuse, malgré que je jurais que c'était douloureux et que je voulais rester debout, comme ça. Et puis surtout, j'ai eu un toucher vaginal tout le long de la poussée, hyper douloureux. En fait, je saurais jamais ce qu'essayait de faire cette sage-femme. Mais en tout cas, voilà. Et je lui demandais d'arrêter. Je lui ai demandé à plein de reprises d'arrêter. Je l'ai insultée pour qu'elle arrête. Je me suis redressée. J'ai même réussi. On me demande toujours comment t'as fait. J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que je me suis redressée et j'ai même retiré violemment sa main à un moment donné qu'elle a remis. Et puis à la fin, c'est vrai que c'était hyper intense. Hein, t'imagines l'ouverture rapide, les violences. Elle me maintenait sur cette table. Et du coup, à un moment donné, elles ont fini par me dire que mon fils souffrait, qu'il fallait mettre la ventouse et tout. Avec le recul, je sais que mon fils souffrait pas parce que j'avais aussi arraché le truc sur moi, le monito. Et du coup, finalement, ça a été la ventouse. Bon, finalement, j'ai pas été ni mon fils ni moi n'avons rien eu. Honnêtement, j'ai cette chance en quelque sorte, c'est que j'ai eu aucune séquelle physique, genre vraiment rien. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais vécu des violences d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a été violent comme naissance, en fait. Vraiment violent. Et du coup, c'est là que je dis que l'allaitement, ça a été aussi, moi, je voulais pas allaiter avant de, comme quoi, vraiment, c'est fou. Mais je voulais pas allaiter avant d'accoucher. Et puis finalement, en fait, c'est cette chance qu'on a eue, je pense, que c'était peut-être le 25 décembre et qu'il y avait peut-être une petite bouffe derrière pour les soignants, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles m'ont laissé après l'accouchement. Mais je sais comment ça se passe, on est tous pareils, c'est normal. Mais en tout cas, elles m'ont laissé plus de 3 heures dans la pièce où j'avais accouché, dans la salle de travail, avec mon bébé en peau à peau. Moi qui n'étais pas informée, je les remercie quelque part. Alors, est-ce qu'elles l'ont fait parce que pour que je me remette de mon accouchement traumatique, peut-être consciente quelque part qu'elles avaient un peu été dures avec moi, ou est-ce qu'elles m'ont oubliée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme une grande chance parce que n'empêche qu'on est resté 3 heures en peau à peau, en fait, comme ça.
Génial.
Et que ça, je pense que ça a guéri beaucoup de choses. Et à ce moment-là, quand mon fils a commencé à chercher le sein, c'est naturellement tété, quoi. Et puis, c'est vrai que je pense toujours que ça fait partie des choses qu'on, qui m'ont permis voilà, d'aller bien et de passer un postpartum, enfin vraiment le postpartum immédiat avant que je reprenne le travail, mais c'était d'une douceur, c'était merveilleux quoi, je passais vraiment mon temps, je pensais pas, moi d'ailleurs je pensais que je serais rapidement en train de refaire mon ménage et de faire plein de trucs et tout, mais non.
Mais bien sûr.
J'avais une image, mais ouais, mais moi j'avais une de ces images de la maternité, je m'en rends compte, mais basée aussi sur, enfin voilà, sur l'expérience. Ma mère, ça a été ça, elle a repris rapidement le travail, ça a toujours été voilà, à gérer tout en même temps. Bon, maintenant, je sais que ça a des conséquences. Bon,
c'est horrible hein, ce que tu as vécu, mais le métier d'infirmier était un métier vocation. Bon, bah, t'as appris à tes dépens que tu pouvais aussi t'imaginer ailleurs.
Ouais, c'est exactement ça. Bah, après, moi, je dis toujours quand même, dans un monde parfait où l'État met des moyens dans l'hôpital et prend en compte ses soignants et les besoins des patients, infirmière, c'est toujours mon métier préféré au monde. Hein, mais
ouais, bon, comme c'est clairement pas le contexte.
Dans le contexte actuel, il faut s'être créé une carapace énorme, et moi, j'en veux pas de cette carapace parce que ça ferait pas de moi une bonne soignante. Mmh. Soit il faut être dans le sacrifice comme je l'étais avant, et clairement, c'est pas compatible avec une vie privée. Quoi. C'est possible, moi, je comprends, j'en connais d'ailleurs des infirmières qui s'épanouissent énormément dans ce truc-là de sacrifice, dans ce truc-là de donner beaucoup. Pas moi plus, en tout cas, moi pas en étant mère.
Bah ouais, je comprends. Et du coup, concrètement, d'un point de vue administratif, tu t'es mis en détachement, c'est comme ça qu'on dit ?
J'ai pris une dispo, ouais.
Ah oui, en dispo.
J'ai pris une dispo et je regrette, en fait, j'aurais dû prendre un congé parental parce que ce qui est magnifique avec la dispo, c'est qu'on ne touche rien de rien.
Ah oui, rien du tout, du tout.
Rien du tout, du tout. Alors, à côté, ça me permet aussi de pouvoir travailler, de faire de l'intérim, ce qui était le but, en fait, à l'origine, avant que je me rende compte que j'ai vraiment une grande difficulté à remettre ma blouse. Mais finalement, du coup, bah, en fait, c'est financièrement compliqué.
Bah, j'imagine,
ouais. À cause de ce choix-là, donc...
Parce que tu peux pas revenir en arrière et dire, parce que le congé parental, c'est pas jusqu'à 3 ans.
Bah, justement, ça, c'est la question que je me pose seulement maintenant. Mais je te dis, j'ai été dans un tel brouillard. Tu sais, même quand je suis partie de mon service, ma cadre, elle m'a un peu sucré des heures, des jours. J'aurais pu me battre pour les récupérer, en fait. J'ai dit, allez, non, en fait, je pars. Je m'en fous, je vais pas récupérer mes jours, pas récupérer mes machins. Tous ces temps partiels, enfin voilà, il y a tellement de jours qu'on sautait, je me suis réellement fait avoir et j'aurais pu me battre, mais en fait,
Mais t'as plus l'énergie.
Et c'est vrai que même pour ça, je me rends compte que j'ai complètement laissé faire cette idée, comme tu me dis là, cette histoire de congé parental. J'ai dû y penser cette semaine en me disant, mais en fait, je suis débile. Pourquoi j'appelle pas je vais appeler et puis je vais voir si je peux modifier ma dispo en congé parental, en fait. Mmh. Mais c'est dommage parce que tout cet argent perdu pendant tous ces mois, mais bon.
On fait comme on peut.
On fait comme on peut au rythme où on va, c'est ça.
C'est tout. Et puis, comme tu dis, à un moment donné, tu voulais tester l'intérim. Peut-être que ça aurait été une révélation.
Hein. Ouais, c'est sûr, ça...
C'est toujours plus facile de refaire l'histoire après coup.
Exactement. Là. C'est ce que j'essaye de pas trop faire parce que justement, je me dis, voilà, ça fait beaucoup de regrets. En fait, j'essaye surtout de me dire que voilà, j'ai vécu une période vraiment très compliquée et qu'il faut que je me pardonne et qu'il faut que je me dise aussi, voilà, bon, bah, c'est de l'argent. L'argent, on sait à quel point c'est important, mais bon, bah, il y a des moments où, bah, c'est la santé mentale avant, quoi. Là, ça a été le cas. Et j'essaye d'accepter ça, quoi. De pas être dans le regret et de pas refaire l'histoire.
Du coup, toi, le postpartum, tu le définis comment ? Est-ce que le travail, la reprise du travail en fait partie pour toi ?
Oui, maintenant, je pense que oui. C'est vrai qu'avant, pour moi, le postpartum, c'était les 3 premiers mois. Je pensais même que ça s'arrêtait au moment du travail. Mais finalement, non. Moi, je pense que le postpartum, c'est une période qui diffère beaucoup d'un individu à l'autre. Je pense qu'il y a des personnes qui vont se sentir... comme sortir de leur postpartum, je sais pas, aux 3 mois, aux 6 mois de leur enfant. Et je pense qu'on peut se sentir un peu dans cette période de transition, parce que c'est un petit peu ça le truc. Dans cette période de transition, peut-être même jusqu'aux 2-3 ans de l'enfant, quoi. Et il y a de plus en plus d'écrits qui vont dans ce sens-là, justement, d'élargir un petit peu cette période selon les différentes expériences, quoi. Enfin, moi, je sais que justement, quand j'ai repris le travail, je me sentais vraiment encore en plein postpartum. J'avais l'impression de ne pas avoir encore atterri. De ce truc-là, c'est vrai qu'à partir de l'accouchement, on a l'impression un peu d'être dans une bulle. Enfin, moi, ça m'a fait ça, en tout cas, d'être un peu, voilà, dans une espèce de brume. Enfin, c'est vrai que c'est fou ce qui nous arrive quand même à un moment donné, de devenir parent. Et moi, je me suis sentie dans ce truc-là, bien 7-8 mois peut-être. Je me suis sentie comme ça, d'où le gros décalage, d'où la difficulté, en fait, à être totalement présente à mon travail, quoi, au départ.
Mmh. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux mères, du coup ? Qui vont vivre cette transition maintenant que tu l'as vécu, et tu l'as vécu avec fracas, on va dire, à tes dépens.
Bah, je pense que c'est difficile déjà de faire des projections tant qu'on n'est pas dedans. Que c'est difficile de s'imaginer à quel point ça peut être transformateur de devenir parent et de pas. Enfin, la santé mentale, c'est super important. Vraiment, c'est vraiment le truc. Il faut pas se mettre de côté. Faut pas écouter les injonctions. Enfin voilà, chacune sa parentalité, sa manière de faire. Mais en tout cas, le truc qui est vraiment important, c'est vraiment la santé mentale. Et je pense que le bien-être de nos enfants découle de toute façon assez directement de cette santé mentale, ou en tout cas notre capacité à être parents comme on le souhaite, quoi, de la façon dont on le souhaite.
En t'entendant et par rapport à ce que tu as rencontré dans ton contexte d'avant et d'après accouchement, il faudrait presque limite arriver à coacher les futures mamans,
ouais,
dès la grossesse pour qu'elles commencent à se mettre dans une attitude de « attention, je suis enceinte, attention, je vais être mère de famille, attention, je ne vais plus accepter, ouais, ce type de rythme ». Et du coup, de les coacher à savoir comment dire non, en fait,
ouais,
et à préparer
ça,
le terrain.
À faire respecter leurs droits même, quoi.
C'est ça, exactement. Et une fois qu'elles ont accouché, ce sera plus facile. Enfin, plus facile. Enfin, ou en tout cas, elles auront préparé le terrain, donc ça sera un peu plus simple.
Bah, moi, je sais que j'ai une amie là, qui a repris le travail il n'y a pas longtemps du tout, d'ailleurs, avec la même cadre, donc du coup, une amie, une collègue et amie, qui a repris le travail là, et je sais que justement, on en a énormément parlé, et mon cas lui a servi d'exemple, quoi. Et justement, elle m'a dit, mais je vais me positionner dès le début, je connais bien mes droits, je vais tout de suite, enfin voilà, et c'est ce qu'elle fait, et ça marche plutôt bien, quoi.
Ouais, bah, au moins, le fait de partager ça, ça te permet, d'exorciser un peu cette période, et puis surtout, évidemment, pouvoir inspirer d'autres personnes. Moi, au gré de mes interviews, ce que je vois, c'est que personne n'anticipe cette période de la reprise de travail, ou très peu, parce qu'on est tous en mode automatique sur ce sujet, c'est la norme, en fait, de reprendre le travail. Et résultat, on est, la proie à plein de problèmes très facilement, finalement.
C'est sûr.
Bon, j'espère que toi, tu es arrivé à te faire aider comme il faut, que tu vas trouver la personne qui saura t'écouter et t'accompagner vers une guérison épanouissante.
Oui, j'espère aussi.
Bon, en tout cas, un grand merci, Marie.
Merci à toi, vraiment.
C'est horrible ce que tu as vécu, mais je me dis, c'est tout l'intérêt, en fait, de ce podcast-là. C'est de pouvoir aussi partager ce type d'expérience pour que les gens se rendent compte et les gens anticipent.
Exactement.
En fait.
Et puis qu'ils se rendent compte de la pression exercée sur les mères et de la difficulté de mener une carrière en étant mère, ouais, c'est sûr.
Avec le témoignage de Marie, c'est peu dire que l'intime est politique. Au-delà de la personnalité manipulatrice de sa manager de l'époque, le harcèlement qu'elle a subi est symptomatique de la représentation et des discriminations des mères au travail. Puisque trop souvent, on demande à une mère de travailler comme si elle n'avait pas d'enfant, un défi aussi malsain qu'impossible à relever. Une injonction qui se fait particulièrement sentir dans les métiers du soin, jusqu'à devenir injonction au sacrifice, pour le bien des patients et la bonne marche du système de santé. Lorsqu'à cela s'ajoutent les pressions autour d'une maternité idéalisée et l'image de la mère sacrificielle, on a tous les ingrédients d'un cocktail explosif, dont la puissance est décuplée par le feu du harcèlement. Pas étonnant alors que la souffrance engendrée soit si grande. Une souffrance qui s'accompagne en plus d'un certain isolement, entraînant alors la victime dans un cercle vicieux de mal-être, comme ça a été le cas pour Marie. Pour toutes celles qui sont dans cette situation, n'ayez crainte de vous ouvrir à un ou une professionnelle pour vous aider à surmonter cette épreuve, car votre souffrance est légitime. Cette souffrance, on y reviendra avec mon prochain invité, un avocat aussi philosophe qu'engagé. Alors pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode.
Voilà, c'est la fin de l'épisode.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @lareprise.podcast.